le réchauffement de la planète à un sujet brûlant qui fait froid dans le dos.
CO2, mon amour.
Déjà, à Bruxelles, de jeunes Belges d'avant-garde anticipent. Ils commencent à prendre l'accent du midi.
Denis Chessou.
Hélas, malgré ses aspects positifs, le réchauffement de la planète peut provoquer quelques petits désagréments. En effet, si les océans recouvrent les continents, ce sera la fin de l'histoire, mais aussi, hélas, la fin de la géographie.
Sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes, nous rapprochons de la nature, en tout cas qui essaie. À la technique aujourd'hui, il y a Florent Beauvalet et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès, sans oublier Alice Michaud et Henri-Marc Mutel réalise l'émission. Ah, regarde le ciel, petit. Mon grand-père aimait lever la tête, jamais la baisser. Il aimait lever la tête et m'a appris à le faire dans le ciel du Tarn de mon enfance, piqueté de pins parasols sur les collines protestantes. Et on regardait passer les oiseaux, les milans, les bondrés, les grives, plus rarement les grues qui préféraient survoler les mamelons du Gers avant d'hiverner dans le sud de l'Espagne. Et fin septembre, début octobre, il y avait aussi des gobe-mouches gris qui se reposaient à côté du garde-manger à insectes avant de poursuivre la migration. Il y en avait partout. Il y avait plein de migrants dans le ciel, dans les haies, les bosquets. Et aujourd'hui, Pierre Chessou, il dirait « Tu vois, petit, ils ont rétréci le ciel. Ils l'ont élargi, oui, aussi à coups d'avion, ils nous promettent l'Éden technologique, mais ils ont rétréci le ciel. Ils savent les gommer, les dégommer, mais ils ne savent pas faire revenir les oiseaux. » Alors les oiseaux se sont réfugiés dans les livres, les écrans, les statuaires. Il y en a bien sûr encore des milliards, mais certaines espèces glissent moins qu'avant dans le ciel de la Terre. Nos industries, nos hypermarchés, nos tracteurs céréaliers, et puis nous tous, avons orchestré le silence des insectes, le murmure incertain des battements d'ailes. Oui, ils ont asséché le ciel et la terre qui n'en peut plus de craquer en octobre ou d'être trop inondé en quelques heures. Mais, en regardant le ciel, l'actualité nous apprend qu'on est au pays parfois de la mauvaise foi, de la mauvaise foie gras. Emmanuel Macron veut prolonger la chasse aux oies sauvages migratrices jusqu'au printemps. Défenseur de la planète à New York et ses collaborateurs à la tâche en France pour tirer les migrateurs en février après la fermeture officielle. Promesse faite aux chasseurs ruraux abandonnés dans les bras de l'extrême. Alors, la dite oie ne cause aucun dégât en France. Une dérogation de plus est signée au ministère de l'écologie, avec le soutien inconditionnel de la Chambre de doléances des chasseurs, autrement dit le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Les scientifiques ont démontré que les oies migrants fin janvier ne sont pas celles qui causent des dégâts chez nos amis néerlandais. Mais alors, pour contrer cette évidence, c'est simple, on a créé un nouveau conseil scientifique. Eh ouais, on change les scientifiques. Nul ne saura vraiment ce qui se régule dans nos campagnes aux petits et gros plombs, vu que les seuls vrais maîtres de l'univers, à qui l'on a depuis peu confié les clés de l'armoire à secret des diverses lois, règlements et pratiques traditionnelles, qui délimitent une saine gestion de nature sauvage, ne communiquent jamais les véritables chiffres de volatiles abattus. Alors est-ce qu'on en massacre 6 000 ou 20 000 ou 15 000 oies sauvages? De même pour les bruants ortolans, les tourterelles des bois, les grives, les alouettes, les bécasses, et la liste est longue. Les dates d'ouverture, de fermeture de la chasse, dans la mesure où elles seraient respectées, fluctuent au fil des ans. Et nul ne maîtrise aujourd'hui l'état des stocks mondiaux, ni les quotas de prélèvement supportables. Et comme il n'est pas question de supprimer un loisir aussi révolutionnaire, et tant qu'il volera du gibier à plumes, on l'abattra. Le plumera, gentille alouette, jusqu'à l'extinction, et on en fera des pâtés de ta tête. La seule chose qui, sans contestation, est contrôlée, c'est le chiffre des promeneurs, cueilleurs de champignons, pique-niqueurs, randonneurs et restaurateurs anglais vététistes, ça c'est le dernier tué samedi dans les Alpes, qui, pour cause de passage de vie à trépas, cesse toute activité de loisir. Alors oui, petit, ils ont rétréci le ciel. Alors vous avez bien une directive oiseau, oubliez, c'est un machin de 1979, qui interdit de tirer les oies lors de leur remontée vers les pays scandinaves pour nidifier. Et alors, plutôt que d'attendre une oie sauvage, moi je conseillerais au jeune Nils Holgersson de prendre en 2018 le train ou un vélo pour visiter la Suède, car Nils Holgersson avec un gilet pare-balles sur une oie avec du plomb dans l'aile, vous savez, comme histoire pour enfants, moi je vous le dis, ça le fait pas. Actualité et puis différents sujets, vous l'avez compris, dans cette journée, dans ce CO2, mon amour, avec nous avons Arnaud Gosseman, avocat environnementaliste. Bonjour Arnaud.
Bonjour Denis.
Frédéric Danvé avec nous.
Bonjour Denis, bonjour Arnaud.
Alors
bonjour.
Frédéric, on a évidemment une pensée très très forte pour nos amis de l'Aude. Enfin, disons-le tout de suite, c'est-à-dire que urbanisation, on va dire ou pas, évidemment qu'il y a eu de l'urbanisation, mais c'était tellement, tellement fort, c'était tellement, tellement violent que de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent, hein, il est tombé 200 à 300 millilitres d'eau en quelques heures. C'est comme si vous aviez 200 à 300 litres d'eau sur un seul mètre carré de votre maison. Rendez-vous compte de ce que ça fait. Donc, avec 200 et 300 litres d'eau qui tombent en une heure sur un mètre carré, quelle que soit la nature de vos sols, de toute façon, c'est de l'eau qui ne s'infiltre pas, qui grossit, qui finit par s'accumuler dans les drains au pied des murs des maisons. Ces drains finissent par exploser. Les murs explosent et entraînent la maison avec elle. Donc c'est un drame qui n'était pas évitable, qui n'était même pas prévisible, contrairement à ce qu'on dit. À chaque fois, on accuse Météo France, mais la violence, si vous voulez, toute l'énergie accumulée dans les cieux avant qu'elle ne se résolve en pluie n'était pas du tout prévisible.
Et d'ailleurs, à cette période de l'année, c'est en fait la température de la mer, hein, qui a chauffé tout l'été, et donc qui s'est élevée et qui favorise donc une forte évaporation. Et donc après, ça part. On parle évidemment de phénomène cévenol, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Hein.
C'est beaucoup plus large.
Provence, Ardèche.
Voilà. Et ça a sans doute été accentué par l'ouragan qui traîne, enfin la queue de tempête, pardon, voilà. qui a traîné et qui a dévasté une partie du Portugal. Par contre, ce qu'on voit là, de toute façon, c'est que, vous savez, ce village qui a été ravagé là, Villegayen, qu'on voit bien que la rivière qui a débordé n'était plus une rivière, hein, c'était une espèce de canal tout droit. On sait bien que ce village, ainsi que Trèbes, la ville martyre aujourd'hui, est installée sur une zone alluvionnaire, c'est-à-dire sur une zone naturelle d'expansion de toutes les rivières du coin, et on sait bien que la région de Carcassonne connaît un taux de surface commerciale, un taux d'hypermarché pour 100 000 habitants qui est trois fois supérieur à la normale. Donc c'est une région qui est très étanchéifiée. Trèbes, par exemple, il suffit de voir sur les photos satellites, a connu un taux d'urbanisation extraordinaire. Entre aujourd'hui et les années 50, on voit que tout s'est développé, tout s'est répandu, hein, en termes de macadam et de béton au nord, à l'est et au sud-ouest de la ville.
Alors Frédéric, des sols capables de capter de l'eau, qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça implique?
Eh ben, on le voit déjà, hein, j'ai participé là à la présentation de la stratégie régionale de la biodiversité de la région Occitanie. La présidente de région, Carole Delga, n'avait qu'un mot qu'on n'entendait jamais avant, Denis et Arnaud, il y a 5 ans. Les sols.
Pour ça, vous étiez précurseur et que cessons de ruiner notre sol, donc qui est réédité.
Qui a été réédité, merci de le signaler, qui est paru à nouveau le 10 octobre. On n'a plus que ça en tête en région Occitanie pour deux raisons. Un, on sait très bien, on s'est rendu compte que malgré la violence de la pluie dont on vient de parler dans l'autre, de toute façon, on sait qu'un sol de qualité absorbe infiniment mieux l'eau, évidemment, qu'un sol qui est ou bien non couvert et qui se comporte vis-à-vis de l'eau comme un parking, c'est-à-dire que l'eau rebondit dessus et ruisselle et galope. On sait qu'un sol de qualité avec beaucoup de matière organique, beaucoup de vie, un sol de prairie par exemple, ou un sol d'une monoculture mais avec de la culture interrompue, donc avec d'autres conduites agricoles, on sait pertinemment que ça absorbe mieux l'eau. Et la politique de la région est tournée vers, après on verra ce que ça donne, vers la promotion d'autres façons de produire, donc qui utilisent les sols de façon plus mesurée, et puis vers ce que la présidente de région appelle le niveau zéro artificialisation nette, c'est-à-dire si on construit un mètre carré, on déconstruit un autre mètre carré, surtout construire sur les zones déjà construites, donc on construit sur l'existant, on construit sur les friches industrielles, et si vous utilisez un mètre carré, bah vous allez rendre un mètre carré à la nature. C'est une vraie révolution ça, parce qu'on n'en parlait pas du tout avant.
Et Frédéric, en même temps, cette région donc se pose évidemment des questions parce que en 2040, elle va manquer d'eau. 1,3 milliard de mètres cubes.
De mètres cubes d'eau potable. C'est tout le paradoxe. On a à la fois des abats d'eau monstrueux, ça c'est typiquement lié au changement climatique, au moment où on n'en a pas besoin, et on a une sécheresse qui s'installe au moment où tout le monde en a besoin. Donc on évalue les besoins d'eau. Aujourd'hui, il y a 90 milliards d'eau qui tombent sur la région Occitanie, mais l'eau utilisable, c'est juste 1 ou 2%. Hein, et il manque déjà...
C'est-à-dire que l'eau potable, quand on parle très très souvent, c'est ça.
C'est c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est 1 à 2%.
C'est valable pour l'ensemble du globe aussi.
Exactement. Donc aujourd'hui, il manque déjà 200 millions de mètres cubes. D'ici 2040, il devrait manquer, si ça continue, 1 milliard 200 millions de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire la moitié de ce que la région Occitanie consomme. Or, 25% de l'eau qui circule dans le réseau tombe. Pourquoi ? Parce que le réseau perd de l'eau, parce qu'il y a des fuites. Il y a des pratiques agricoles qui utilisent trop d'eau, comme l'arrosage du maïs. Il y a la consommation qui continue à augmenter dans les ménages. Et puis, de toute façon, il y aura un manque. On estime qu'il y a 30 millions, il y aurait d'ici 2050, 30 millions de mètres cubes d'eau à coincer dans des barrages, dans des retenues.
Le FNSEA va vous dire, d'accord, mais alors à ce moment-là, réserve collinaire.
Mais justement, c'est ces 30 millions de mètres cubes d'eau que l'agence de l'eau imagine. Là, il y a le syndrome Sivens. Pour l'instant, personne n'est prêt pour imaginer de creuser à nouveau des barrages, en tout état de cause. Et encore une fois, c'est ce qu'a déclaré la présidente de région il y a quelques jours. Elle a parlé des sols, elle a parlé de l'eau, elle a parlé des zones humides. Les zones humides, les sols, restaurer les zones humides qui servent d'éponge à eau, qui servent d'écrétage des crues. C'est un vrai changement. Mais malgré tout, il y a un vrai problème, et je passe très vite là-dessus, c'est qu'il y a un problème d'argent. C'est que l'État ponctionne de plus en plus sur le produit des redevances eau qui sont perçues sur notre facture et auprès des industriels.
C'est pour ça que les agences de l'eau, les 6 d'ailleurs, sont dans le dur aujourd'hui, et donc ça se traduit par un manque à gagner de combien pour l'agence Adour-Garonne en l'occurrence ?
Alors là, pour l'instant, c'est 20% de son budget. Ça pourrait représenter bientôt entre 300 et 400 millions d'euros de budget par an, alors
ça,
même que
le total, je crois,
simplement, alors mais oui, ou c'est non, c'est le total pour les agences.
Ouais, c'est ça, total voilà.
Mais en tout cas, pour l'agence Adour-Garonne, c'est 20%, qu'elle a un réseau à améliorer, qu'elle a un réseau à moderniser, alors même que sur le territoire de l'Occitanie, 27% des masses d'eau que gère la région Occitanie, l'agence de l'eau Adour-Garonne, sont classifiées comme mauvaises. Donc il y a des investissements à faire aussi en matière de pollution. C'est de l'argent qui va manquer, c'est de l'argent que l'État utilise pour son propre usage, et c'est de l'argent que l'État utilise pour alimenter l'Agence française de biodiversité.
Voilà, c'est l'Agence française de biodiversité qui effectivement en bénéficie. Merci, cher Frédéric Denry, pour ce premier décryptage. Mais oui, il y en aura un autre, joie bonheur. Une petite chanson. Allez, c'est parti sur France Inter. Oui, c'est aux deux.
Cousin, pas prendre cousin là. Cousin. Cousin, pas prendre cousin là. Cousin, la panty ma sou manga. Cousin, la panty ma sou jumbo. Cousin, la panty ma sou meltan. Cousin, pas prendre cousin là.
Très bien, ça choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Cousin, c'était Mélissa Lavaux, canadienne et avec des origines haïtiennes.
Rien n'arrête une idée qui arrive à son heure. Victor Hugo.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou, sur France Inter.
Avec la voix de Jacques Bonafé, un compatriote à vous, hein,
ah, oui,
cher Frédéric Dandré,
un copain, un ami, il est bien.
Un copain, un ami, c'est très bien. Donc nos amis du Nord, du Pas-de-Calais, des Hauts-de-France,
des Hauts-de-France.
D'accord. Donc voilà. Alors suite de l'actualité avec vous, donc Arnaud Gossement, avocat environnementaliste, et donc nous avons une nouvelle secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon, qui a été directrice générale aux affaires publiques de Danone. Ça a mis toute la toile en émoi. Donc qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, puisque donc Europe Écologie Les Verts souligne donc elle a été dans le secteur agroalimentaire. Donc est-ce contradictoire?
Oui, parce qu'effectivement, cette jeune femme avait tout pour plaire normalement aux écologistes. Bah, d'abord, elle est surdiplômée, HEC, Sciences Po, ENA, carrière magnifique, Cour des comptes, AFSAPS, directrice de cabinet de Martin Hirsch au ministère du Travail. Bref, le CV absolument idéal pour plaire à tout le monde. Enfin, nous avons quelqu'un de compétent, de brillant et d'enthousiaste à ce poste de secrétaire d'État à l'écologie. Eh bien non, ça n'a pas plu. Elle a été immédiatement brûlée en place publique, notamment effectivement par le patron des Verts. Pourquoi ? Parce que sur toute cette carrière, elle a passé 3 ans chez Danone en tant que directrice de la communication et des affaires publiques. Donc nécessairement, eh ben, il y a un énorme conflit d'intérêts, puisque voyez-vous, maintenant, Danone va pouvoir tirer les ficelles et faire en sorte que ses desiderata soient exaucés au plus haut niveau de l'État. Donc cette polémique est effectivement un petit peu regrettable, parce que je ne suis pas persuadé que les ministres en charge de l'écologie soient les pires ennemis de l'écologie. Il vaudrait mieux les soutenir que de les brûler tout de suite. Mais c'est vrai que ça fait suite à cette déclaration de Nicolas Hulot, hein, dans votre studio, qui s'inquiétait de la présence des lobbies au plus haut niveau de l'État, sachant que cette dame n'était pas véritablement lobbyiste, hein, elle n'était pas dans un cabinet de consultants qui agissait.
Non, elle n'était pas à l'extérieur, elle était à l'intérieur, donc c'est ça.
Elle était à l'intérieur, ce qu'elle a souligné effectivement dans une interview chez vos confrères de Libération, elle était bien à l'intérieur.
Hein. Alors c'est vrai que ce qui a fait un peu grincer, c'est qu'elle a parlé de l'huile de palme, qui est le meilleur des ingrédients pour les laits infantiles. Donc ça, c'est une phrase, mais qui est un peu quand même extraite.
Ça résume un peu quand même, Denis, disons franchement les choses, parce que si vous regardez la totalité de cette intervention, elle dit à un moment donné qu'effectivement Danone a encore recours à de l'huile de palme, de l'acide palmitique, mais elle souligne aussi les dégâts environnementaux et sanitaires de ce produit. Et elle a immédiatement dit, de toute manière, qu'en tant que ministre, elle appliquerait la position du gouvernement qui est de l'interdire.
Alors, elle n'a pas signé le décret, au moins, de la mettre, puisque Nicolas Hulot, un peu contraint et forcé, donc, l'a fait pour l'ouverture donc de l'usine de Total, qui va donc raffiner 300 000 tonnes d'huile de palme. On peut aller jusqu'à 400 000 ou 500 000. On rappelle quand même que, on l'avait déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais qu'en ce qui concerne l'huile de palme en France, 75% va dans nos réservoirs, 25% dans l'agroalimentaire, en tout cas, et le reste, mais c'est 75% qui vont dans les réservoirs. Et M. Darmanin, d'ailleurs, tout à fait récemment, a dit que non, on ne va pas taxer ça, donc on le laisse tout à fait tranquillement. Alors, ça, c'est pour la casquette de lobbyiste, ou de non-lobbyiste, mais aller et venir du public au privé, bon, on appelle ça du rétro-pantouflage, là aussi, ça a été une accusation qui lui a été faite.
Oui, alors effectivement, après avoir dit qu'elle était en situation de conflit d'intérêt, après avoir dit qu'elle avait fait la promotion de l'huile de palme, c'est pas tout à fait exact. Alors, troisième accusation, donc je pense qu'elle a besoin d'un avocat, je vais lui envoyer mon numéro.
Mais c'est pour ça que vous, d'accord, oui.
Troisième accusation, elle a fait du rétro-pantouflage.
C'est de l'humour, ne m'engueulez pas, Arnaud Gossement, c'est pas la peine.
Oui. Non, je suis en pleine forme, c'est clair. Bon. Tout ça pour vous dire que ce terme atroce veut dire qu'elle est allée du public au privé et qu'elle retourne dans le public. Alors non, en France, lorsque vous êtes fonctionnaire, il faut rester toute votre vie jusqu'à votre mort fonctionnaire, ne surtout pas aller voir ce qui se passe dans le privé et vice versa. On pourrait au contraire penser que dans les temps modernes, eh bien ça serait pas mal d'aller s'enrichir d'une expérience professionnelle dans le privé, d'en faire bénéficier ensuite l'État et vice versa. Eh bien non, le fait d'être allé chez Danone, de s'être un petit peu cultivé sur les problèmes du secteur agroalimentaire, sur les problèmes notamment environnementaux, n'est pas porté à son crédit par certains écologistes qui se sont exprimés. Eh bien, c'est dommage, Denis, effectivement, parce que je pense qu'on devrait la juger sur ses actes avant même de l'affaiblir, hein, ce que les lobbies, les vrais, ne cherchent qu'à faire.
C'est ça. Bon, de toute façon, on va voir après, effectivement, on va juger sur pièce. Petite réaction, Frédéric Noé.
Non, mais c'est révélateur de quelque chose, c'est qu'il y a une écologie en France qui a un problème avec l'argent, qui a un problème avec le capital. C'est une espèce d'écologie au stade anal, si vous voulez.
Ah, on paraît qu'il le ferait.
Voilà. Non, mais bon, l'argent, c'est ça, le grand capital.
Bon, vous répondrez aux mails, hein. Moi, je vous envoie les mails après, parce que.
Non, mais c'est terrible, parce qu'on la condamne, on la cloue au pilori. Alors même qu'elle n'a pas encore agi, et c'est embêtant parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'associations en France dont il faut sans cesse louer le travail, mais qui butent là-dessus parce que les élus locaux leur demandent de les aider, par exemple, à rester dans les clous de la réglementation, moyennant une réponse à un appel d'offres, et beaucoup d'associations ne veulent pas répondre à ça parce que ça les rendrait normales, professionnelles, comme un bureau d'études, et puis parce qu'il faudrait manier de l'argent, et du coup beaucoup refusent et se contentent d'être militants. C'est très bien d'être militant, mais parfois il faut aller un peu au-delà. Et c'est un vrai problème de l'écologie aujourd'hui. Il y a un cap à passer, celui d'une forme de professionnalisation, c'est-à-dire accepter le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, malheureusement ou heureusement, la valeur des choses, elle est donnée par le signal prix, par l'argent. Et il y a une partie de l'écologie qui a toujours pas passé ce cap-là. C'est triste, parce qu'encore une fois, je comprends même pas, moi, qu'on puisse insulter quelqu'un sans même l'avoir vu faire.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter donc un extrait vraiment de 40 secondes de notre président de la République, lors de son une allocution qui avait duré une douzaine de minutes. Alors très souvent on avait dit, vous savez, il était dans un studio, c'était, il n'y avait pas de lumière, c'était un peu
sombre,
crépusculaire, etc. Mais non, mais c'était pour faire des économies d'énergie. Mais bien sûr, c'est ça. Vous l'avez pas vu comme ça, vous.
Il n'y a pas des
lumières. Maintenant vous m'éclairez là. Ils ont baissé la lumière donc exprès. Allez, on l'écoute.
Je sais que l'esprit profond du peuple français a toujours été de ne pas se soumettre, à la tragédie écologique. Et faire des choix clairs et profonds pour changer notre manière de produire, de nous déplacer, de nous alimenter. Là aussi, il ne s'agit ni de dénoncer une tragédie, ni de rester dans l'immobilisme, mais de prendre des décisions profondes, inédites. Le gouvernement a commencé ces derniers mois, et dans les semaines à venir, il aura des décisions structurantes et historiques à prendre.
Voilà, alors c'est peut-être là effectivement qu'il faut l'attendre parce que
oui, parce que sinon structureux, oui. Et sinon c'est lugubre. On dit à François Mitterrand qui annonce tout triste la guerre en Irak.
Giscard, ouais.
Ou Giscard.
Non mais
oui, Giscard, la fin de son mandat.
Donc s'il faut, c'est attendre.
Bah oui, il faut attendre.
Ce qu'il peut y avoir de structurant et de
nouveau. Il y a déjà tout ce qu'il faut en termes de loi, en termes de réglementation. Voilà. Il suffit de les appliquer. Publie des décrets, par exemple, des décrets d'application.
Je vois vos paroles. C'est vrai qu'il annonce de nouvelles mesures. C'est politiquement, ils n'arrivent pas à comprendre que l'important, c'est d'appliquer l'existant. C'est pas de créer des nouvelles lois qui vont finir tout de suite au placard, c'est d'appliquer l'existant. Mais ça, c'est pas politique.
Et de pas pomper du fric aux agences de l'eau, et puis de laisser des effectifs de police de l'environnement, par exemple, à l'agence de l'eau, à l'ancienne ONEMA, qui est maintenant dans les agences régionales de biodiversité. C'est appliquer des textes et puis laisser des sous pour embaucher des gens.
Bon, et ben voilà. Et alors donc, moi ce que je vous propose, on va rester un peu dans la jeunesse là, si vous voulez, et on va rencontrer. Moi j'aime bien les paroles de jeunes. Bah tenez, allez, paroles de jeunes, on y va.
Le monde d'après, oui, mais avec les jeunes.
On va se décentraliser. Mais oui, on va aller dans un très beau département qui s'appelle, enfin, ça dépend des coins. Enfin, qui s'appelle les Deux-Sèvres. Voilà. Donc, on va aller dans les Deux-Sèvres. On connaît Niort. Mais nous, on va aller dans le Bocage. On va aller du côté de Minigout. Et Minigout, vous avez le Festival International du Film Ornithologique. Ça aura lieu à partir du 30 octobre. Et moi, j'avais rencontré, il y a déjà quelques temps, une jeune fille qui est à l'IFCAM. Qu'est-ce que l'IFCAM? C'est l'Institut francophone de formation au cinéma, mais animalier, donc, de Minigout. Et elle s'appelle Mélina Bronson. Mélissa Bronsard. Et là, nous sommes donc au milieu du bocage et elle nous présente le lieu.
C'est une ferme, donc on a un jardin, on a un potager, cette mare. Entre les deux, on a des bâtiments qui ont été réhabilités en salle de montage, de mixage, salle de cours. Et on a du coup le bois qui est juste derrière avec la Vaune qui passe plus bas. Cette mare-là où on a des grenouilles, des libellules. Donc on est au milieu de tout ça et c'est là qu'on a cours.
Et c'est là que vous avez cours. Alors, Mélissa Bronsard, dites-nous comment c'est venu tout ça, puis qu'est-ce que vous faites? Vous avez 23 ans, c'est ça?
J'ai 23 ans, ouais. Je suis à l'IFCAM depuis un an et demi, du coup je suis en deuxième et dernière année. Avant de faire l'IFCAM, j'étais à la fac à Paris, je suis parisienne de base. J'ai fait une fac d'anglais et une fac d'histoire, donc j'ai eu ma licence, j'ai travaillé un an à l'étranger. Voilà, je me suis posée en me demandant si c'était ce que je voulais faire, de l'enseignement, des traductions, etc. Et je voulais pas continuer là-dedans. Enfin voilà, je me suis dit, Mélissa, pour toi, c'est quoi les valeurs sûres, enfin, dans ta vie, ce à quoi tu te raccroches? Et c'était le cinéma. J'ai toujours beaucoup aimé le cinéma et la nature. Et je me suis dit, comment je peux concilier les deux? J'ai tapé sur Google, vraiment bêtement, ça fait pas rêver, mais j'ai trouvé ça comme ça.
IFCAM donc est tombé.
Voilà, donc j'ai tapé formation documentaire animalier. J'ai trouvé l'IFCAM et je me suis quand même lancée. Je me suis dit, je ne saurais jamais si ça me plaît si je ne le fais pas. Donc je me suis lancée, j'ai été prise. Et un peu en réfléchissant, je me suis rendu compte que tous les meilleurs souvenirs de ma vie, enfin surtout de mon enfance, étaient liés à la nature en fait, au moment que je passais dehors avec mon frère, mes cousins.
Et alors c'était où ça?
Un peu chez ma grand-mère en Picardie, parce que mon père est picard. Et surtout, mes vacances d'enfance, ma mère est brésilienne. Et du coup, j'étais souvent, tous les ans, on était au Brésil, dans la ferme de mon oncle. Et c'est là que j'ai des très très bons souvenirs et où je me sentais bien, quoi.
Et alors, dans ce pays de 200 millions d'habitants, là, qu'est le Brésil, la ferme était à quel endroit? Parce que c'était pas, c'était pas à Copacabana.
Oui. Non, c'était une ferme dans la campagne de l'état de São Paulo, à 6-8 heures de route de la ville de São Paulo, et où on allait avec mes cousins, mon oncle, ma tante, mon frère, passer 2-3 semaines. Durant l'été, et donc on se levait le matin, on allait chercher les œufs, on allait pêcher, on allait faire du cheval, on allait jouer avec les chiens, on salissait, et c'était sympa, quoi.
Et alors quand même l'observation des animaux, parce que mine de rien, cinéaste animalier, c'est un travail à la fois de précision, de très grande patience, c'est pas exactement des comédiens, donc on a beau avoir un scénario en tête, faut quand même sacrément s'adapter, quoi.
C'est pas toujours facile au début parce que du coup moi j'avais jamais rien fait avant d'arriver à l'IFCAM, je m'intéressais mais j'avais pas fait vraiment le terrain. Et du coup, on apprend à y aller, y retourner et persévérer. Parfois, on s'y prend mal. Parfois, on n'a juste pas de chance. Parfois, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Mais du coup, c'est long. Souvent, on a un peu froid, etc. Mais du coup, quand ça arrive, on oublie tout. Quoi.
Enfin, vous êtes la reine des affûts. Qu'est-ce que vous avez shooté, comme on dit, en fait, comme animaux là?
J'ai fait un film sur les pêcheurs. Donc, il y avait beaucoup d'intervention humaine dans mon film. Mais j'ai essayé, dans le film, de les mettre en relation avec les oiseaux pêcheurs. Donc j'ai fait beaucoup d'affûts au bord d'un étang, donc pour filmer hérons cendrés, aigrettes, cormorants, grèbes huppées.
C'est quoi vous derrière l'envie, quoi?
Ce que j'ai tendance à ressentir, c'est que j'ai l'impression que les gens, enfin surtout les gens qui habitent en ville, enfin je parle pour moi parce que j'ai toujours habité en ville, les gens oublient que on fait partie de cette nature en fait, et que certes on a fait des choix aujourd'hui qui nous amènent à nous en dissocier. Mais au final, c'est un peu manichéen de dire ça, mais on veut pas mieux que n'importe quelle autre forme de vie, et on fait partie de ça, et ça m'attriste un peu de voir que les gens s'en éloignent et considèrent qu'ils ont pas de compte à rendre à la nature, quoi. Et donc moi, c'est ce qui revient un peu toujours dans mes thèmes de réflexion, quoi. La place de l'homme, pourquoi est-ce qu'on s'écarte, pourquoi est-ce qu'on s'en rapproche, pourquoi de cette nature. Et enfin, mon but, c'est pas de parler à la terre entière et de... Voilà, mais si ça peut servir une fois à quelqu'un qui regarde un film et qui réfléchit à ça, pas forcément qu'il change d'avis, qu'il en soit convaincu, mais qui se pose la question, c'est peut-être pas mal.
Comment on peut faire pour rabibocher l'être humain, donc avec cette nature qui s'est écartée de lui ou bien dont il s'est écarté?
Je sais pas, je pense qu'il faut observer, quoi. La nature, elle est belle partout. C'est vrai que quand on voyage, c'est super de voir des super paysages, des espèces, mais même les gens qui n'ont pas les moyens de voyager, même autour de chez soi, je sais pas, aller un petit peu plus loin à la campagne, dans un parc, se poser un peu, écouter et voir qu'on peut se sentir bien, que la nature n'est pas forcément hostile et juste savoir, observer ce qui nous entoure, reconnaître un peu les espèces, voir comment ça s'organise et voir qu'il y a un petit monde aussi qui existe, quoi, qui cohabite. C'est ce que j'essaye de faire. Je suis pas très naturaliste de base, donc j'apprends, tout le temps, mais.
Comment vous projetez, vous, sinon? Je sais pas, dans peut-être 5 ans, 10 ans?
Je me suis jamais trop projetée dans ma vie en général, et depuis que je suis à l'IFCAM encore moins, parce que du coup c'est un nouveau chemin pour moi.
Déjà vous projetez vos films, c'est déjà pas mal.
C'est ça, mais dans 5-10 ans, j'espère continuer à faire ça, en faisant mes films ou en travaillant sur le film d'autres personnes, participer à des projets, voyager et me sentir vivante.
Et il y a un animal que vous aimeriez prendre à travers votre filet cinématographique?
C'est pas très exotique ni original, mais ça fait quelques mois que j'ai une petite obsession sur le troglodyte mignon.
Ah bah oui, attendez, là il y a la moitié des gens là qui savent pas ce que c'est, donc faut y aller, donc le troglodyte mignon.
Le troglodyte mignon, c'est un tout petit passereau, mais vraiment minuscule, qui fait 8 cm, qui pèse quelques grammes, qu'on trouve à Ménigout ici, dans le bocage il y en a, il se cache dans les haies, dans les cavités. Enfin, il est vraiment adorable, il est tout petit avec la queue dressée derrière, il est très actif, son cri est très bruyant, quoi. On l'entend avant de le voir, on a du mal à le voir parce qu'il est minuscule.
On l'entend.
Mais on l'entend.
C'est du raffut, quoi.
Voilà, et j'aime bien sa façon qu'il a de vivre sa vie dans le bocage et de faire sa loi, et alors qu'il est vraiment pratiquement imperceptible, quoi. Donc j'aimerais bien le photographier ou le filmer, je pense.
Eh bien déjà, vous l'entendez là, le fameux troglodyte mignon, vous l'entendez. Merci donc à cette jeune fille, Mélissa Bronsard, qui d'ailleurs donc a quitté maintenant l'IFCAM, elle a terminé ses études. Elle fait un documentaire sur le braconnage, donc ça vient qu'il y a du boulot, il y a un truc d'avenir là. Et donc je vous rappelle que le...
Job à plein temps.
Job à plein temps, absolument. Que le Festival International du Film Ornithologique de Ménigout aura lieu du 30 octobre au 4 novembre. Moi j'emmène mon chat tous les ans, il adore ça, il va voir le Festival Ornithologique.
Votre chat,
il griffe le vélo, puis parfois il griffe l'écran parce qu'il y a tellement d'oiseaux, ça le met absolument en joie. Voilà. Alors Arnaud Gosman, on va continuer donc avec vous l'actualité. Et d'ailleurs, ça nous fait un lien merveilleux parce que on va toujours rester dans la jeunesse avec des étudiants de grandes écoles. Alors, est-ce qu'ils sont devenus des anges? Parce qu'en fait, il y a un manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ça nous intéresse.
Oui, clairement, j'ai eu un coup de cœur pour ces étudiants qui ont une vision très claire de leur avenir. Ils ne veulent pas travailler pour des entreprises qui sont polluantes. Vous avez 16 366 jeunes, ce matin, j'ai regardé, issus de très grandes écoles pour la plupart, HEC, AgroParisTech, Centrale Supélec, Polytechnique, École Normale Supérieure. Ils ont mis en ligne un manifeste que vous pouvez trouver sur Internet. Le site Internet s'appelle « Pour un réveil écologique ». Vous tapez ça dans Google, vous tombez dessus. Et grosso modo, ce manifeste, il a trois parties. D'abord, un constat qui, lui aussi, est particulièrement clair. Ce constat, c'est que si ça continue comme ça, on va s'effondrer. Le fonctionnement actuel de nos sociétés modernes, fondé sur la croissance du PIB sans réelle considération des manques de cet indicateur, est responsable au premier chef des problèmes environnementaux et des crises sociales qui en découlent. C'est pas le club de Rome, c'est des étudiants des grandes écoles en 2018
qui
le disent.
Qui seront partie des élites de demain. Enfin,
rassurant. Il pose une question, et en plus il la pose de manière un petit peu humoristique. À quoi cela rime-t-il de se déplacer à vélo quand on travaille par ailleurs pour une entreprise dont l'activité contribue à l'accélération du changement climatique ou de l'épuisement des ressources?
Bien vu.
Très bien vu. Mmh. On voit qu'ils sont intelligents, nos chers étudiants et décideurs de demain. Et une réponse, troisième citation de ce manifeste. « Nous souhaitons profiter de la marge d'action dont nous bénéficions en tant qu'étudiants, nous tournant vers les employeurs que nous estimerons en accord avec nos revendications exprimées dans ce manifeste. » Moi, je dis bravo, parce que ça fait plaisir. Le constat est clair, la réponse aussi. Et évidemment, ça donne beaucoup d'espoir.
Hein. Alors, un engagement des pétitions, c'est vrai qu'on en a déjà vu beaucoup, on va dire, du même type, de mouvements étudiants aussi, de différentes universités. Pourquoi, donc, on va dire, celle-là est peut-être différente,
Vous savez, quand vous tapez votre nom dans une pétition de ce type-là, vous n'avez pas le droit à l'oubli. Donc votre nom, un jour ou l'autre, il va ressortir. Ce sont des jeunes qui ont décidé d'associer leur nom à une cause qui est juste. Et demain, lorsqu'ils vont être dans un entretien de recrutement, probablement qu'il y aura ce sujet sur la table. Et les entreprises qui vont vouloir recruter ces jeunes qui sont l'élite de demain, pour faire simple, vont devoir s'adapter pour les recruter, pour les retenir. Parce qu'on sent que c'est pas simplement le goût de l'argent ou le goût d'avoir un beau bureau ou une belle bagnole qui les
attire. Ils ont envie de donner un peu du sens à leur vie. Ça, c'est...
Ouais, ça change. Ouais. Et puis pas simplement une belle idée comme ça. Il y a vraiment dans ce manifeste de la matière, une réflexion. Ils ont réfléchi à plusieurs, ne fût-ce que la démarche elle-même, qui est une démarche collective et collaborative, puisque derrière ce manifeste, et ben vous pourrez cliquer sur un lien une fois que vous avez signé, qui vous renvoie vers une page avec les solutions. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'élaborer les solutions qu'ils estiment prioritaires, notamment dans leur boîte de demain.
Alors vous avez parlé de déplacement. Dans quelques instants, je vous emmène du côté de Grenoble, parce que là, on va rencontrer un garçon qui a créer un plan de déplacement d'entreprise au CEA de Grenoble. Et vous allez voir, là aussi, c'est une initiative positive et des choses bougent sur le territoire. Ça bouge aussi d'un point de vue musical. Allez, hop.
A monkey with my makeup running, too proud to find no time to breathe. My baby's always threatening to leave. You can do that or be here. Almost brought me down to my knees. You said I've never been clear. Honey, you better believe. Now that there's nothing to fear, you can just leave.
Loaded, c'était Miles Kane sur France Inter, CO2, mon amour.
CO2, mon amour, avec Denis Chessou.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, ça a un côté rassurant.
Sur France Inter.
On ne s'en lasse pas, Bernard Blier, on aime beaucoup. On aime beaucoup, et Henri-Marc Mutel aussi. M'a dit, est-ce que je peux le passer 5 fois de suite? Je lui dis, non, juste une fois, ce sera déjà très, très, très bien. Alors, nous sommes, vous l'avez compris, avec Frédéric Danvé, avec Arnaud Gossement, avec différents sujets. Je reviens sur une actualité. Alors, c'était très, très bien raconté ce matin dans On n'arrête pas les cours. Mmh. Le feu vert pour le péage urbain. Les agglomérations pourront mettre en place ce dispositif opérationnel, donc qui est déjà opérationnel à l'étranger. Donc ils pourront le mettre en place en France. Qu'est-ce que l'on peut, on va dire, rajouter par rapport à cela? Bon, on a vu que Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont dit tout de suite niet, non, il n'en est pas question pour nous en Île-de-France. Mais que dire?
Ce qu'on peut rajouter, c'est que faut faire attention au totem diesel. Hein. C'est pas parce qu'on va arrêter le diesel que les choses vont s'améliorer d'un coup. Le problème de la voiture, c'est la voiture elle-même, c'est la surface qu'elle occupe sur la voirie, et la surface qu'elle occupe en ville. Et donc que l'on passe à l'hybride rechargeable ou à l'électrique, on aura toujours autant de voitures. Donc une des solutions, de toute façon, c'est d'embêter l'automobiliste. Mais il y a une façon assez intelligente à faire, c'est de favoriser la voiture qui comporte plus d'un passager à l'intérieur. Or,
la moyenne, c'est 1,1 ou 1,2 maximum.
Voilà, aujourd'hui. On pourrait, par exemple, et moi j'ai assisté à un débat qui était passionnant avec tous les professionnels du secteur qui disaient, aujourd'hui une voiture sait combien de personnes l'occupent parce qu'elle sait combien de satures sont enclenchées. Cette voiture pourrait transmettre ces informations à un péage, lequel péage du coup enverrait les voitures avec au moins 2 personnes à l'intérieur sur la voie de gauche et puis les autres sur la voie de droite. Ceux sur la voie de gauche, comme à San Francisco, iraient plus vite en ville. Et on pourrait même coupler cette information avec le type de véhicule. Pourquoi? Parce que une personne dans une toute petite voiture occupe moins de place qu'une personne dans un break ou dans un énorme SUV. Et le problème aujourd'hui, c'est que le marché se concentre sur les très très gros véhicules qui occupent une place énorme. Et c'est ces voitures-là dont il faut dissuader l'usage plutôt que de se focaliser un peu trop sur le diesel. Toutes ces infos, on les a toutes et permettraient à des péages, en lien d'ailleurs avec le prix des parkings qu'on pourrait moduler en fonction de ça, pour réguler la circulation. Juste une chose, il y a 19 millions de personnes qui se rendent chaque jour au travail en voiture. 30% c'est pour le travail. 30% donc ça représente 30% du trafic routier. Et 75% des véhicules ont une seule personne à bord. On sait que s'il y avait 10% de plus à l'année, on résorberait la plupart des bouchons en Île-de-France.
Merci, cher Frédéric. Alors, on va rester dans ce sujet parce que du côté de Grenoble, eh bien, j'ai rencontré Bruno Renard, qui est coordinateur et responsable sociétal, donc, au CEA de Grenoble. Et donc, cet homme-là, il a pas mal d'idées. Il a rencontré d'autres entreprises. Il va nous raconter son histoire. Nous sommes à la Presqu'île, hein. C'est Grenoble-Presqu'île. C'est-à-dire qu'on est au confluent du Drac et de l'Isère. Bonjour à vous Bruno Renard, racontez-nous.
Bonjour Denis. Alors il se trouve que le CEA a un gros plan de déplacement d'entreprise depuis des années parce que dans l'ADN de la recherche, on travaille sur les nouvelles technologies de l'énergie, donc mixer l'intérêt des chercheurs, l'expérimentation avec le besoin de réduire l'usage de la voiture tout seul, on avait déjà des performances assez colossales au niveau du CEA. Donc on a réussi le transfert vers le transport en commun avec des mesures, on rembourse 85% de l'abondement en transport en commun. Oui. Donc on a plus de la moitié des salariés abondés. On a une ville plate, donc on a aménagé les aménagements cyclistes pour que on sécurise leur trajet, parce que le cycliste, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être en sécurité. Donc, normal. C'est clair. En fait, on avait réussi tous ces challenges, mais il y en a un qu'on ne réussit pas, c'était le covoiturage, partager sa voiture. Et là, en 2011, je me suis dit, tout seul, j'y arriverais pas. C'est vraiment une cible, la presqu'île grenobloise, l'entrée de Grenoble. Donc, j'ai passé des coups de fil à ST Microélectronique, à Schneider Electric, à l'école d'ingénieurs d'à côté. Et en fait, on s'est retrouvé sur la presqu'île à être 16 établissements de l'enseignement supérieur, de la recherche. Ça va jusqu'à Grenoble École Management. Au début, j'ai fait une charte. Allez, on signe tous une charte en disant tous ensemble pour limiter l'usage de la voiture solo. L'année suivante, on a été obligé de faire une convention de fonctionnement parce qu'il faut une petite gouvernance quand même quand on fait ça. Et on a eu tellement de réussite qu'en 2014, j'ai proposé de créer une association de loi 901. Donc, il y a défrayé la chronique. Je ne savais pas pourquoi. En fait, c'est quand les gens venaient me voir, ils me disent « Ouais, vous avez des bons résultats sur le report modal, mais comment vous avez réussi à faire une association de loi 901 avec du Schneider, du Siemens ?» Une école d'ingénieurs, un CNRS, un CEA. On a fait une zone piétonne de 50 hectares. C'est très difficile, les gens ils acceptent pas. Et lui-même, le patron, quand il a dit aux gens, bah maintenant vous allez vous déplacer à pied pour rejoindre votre bureau. Donc bon, on a mis des navettes électriques, on a 1000 vélos de service, on a des petites Twizy qui tournent en permanence parce que quand les gens les fait venir à pied, le site fait 70 hectares,
oui,
il faut qu'ils puissent se déplacer sur le site. Et comme il avait participé, créé le projet Giant, qui est un projet de réunification sur la presqu'île d'écoles d'ingénieurs, de grands instruments, eh ben, il s'est dit, on va mettre ça au niveau de la presqu'île. Et donc, d'où l'idée d'un PDIE qui s'appelle d'ailleurs Grenoble Presqu'île Giant. Donc, il porte ce nom.
Alors,
et donc,
aujourd'hui,
on représente 16 000 usagers.
16 000 usagers, c'est ce que j'allais dire. Et donc, maintenant, c'est 16 000 personnes qui ont quand même abandonné en partie ou bien en totalité la voiture.
Notre démarche aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore gagné, on a un pari assez fou, c'est qu'en fait, d'ici à 2025, on va multiplier par deux la population de la presqu'île. On est 16 000, on va passer à 32 000, avec en plus des habitants, donc des nouvelles habitudes de déplacement. Donc il y a des enjeux qu'il faut réussir en mettant en place des mesures incitatives. Et ces mesures incitatives, un, on travaille sur le report modal. Donc on va chercher des gens, on va questionner les gens qui viennent en voiture tout seuls pour leur dire « mais ça suffit, venez en transport en commun, ainsi de suite ». Il y a un deuxième objet très important que les gens oublient, il faut fidéliser ceux qui ont fait le passage. Parce que sinon, s'ils sont passés au transport en commun et qu'ils reviennent à la voiture, ils reviendront plus au transport en commun. Donc on travaille avec les collectivités, avec les transporteurs, faites-nous des trains à l'heure, donnez-nous des fréquences de bus, vous voyez, aménagez les pistes cyclables, sécurisez les trajets. Donc il y a vraiment deux dépenses d'énergie très complémentaires. Fidéliser ceux qui ont déjà fait le pas vers les modes, on va dire, proactifs, modes doux, et aller toujours chercher les gens qui n'ont pas encore fait ce changement.
Bruno Renard, quelle est la part du vélo? Parce qu'elle est quand même extrêmement importante à Grenoble. C'est donc plus de 15% aujourd'hui des personnes qui utilisent leur bicyclette pour aller sur les lieux domicile, travail, travail-domicile. Qu'est-ce que ça représente chez vous?
Alors aujourd'hui, chez nous, c'est 21%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a atteint le plafond dans l'usage du vélo classique. Là, maintenant, on travaille sur deux sujets. Le vélo assistance électrique, qui sera vraiment un gap. On peut passer à 10% de plus de cyclistes grâce au vélo électrique en allant les chercher de la voiture. En fait, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui nous disent « je peux pas prendre le vélo, je peux pas prendre les transports en commun parce que j'ai un travail sédentaire et je me sens pas capable physiquement de le faire ». Et donc, on est en train de monter avec mon adjoint un club de sport sur une méthode très simple. Ouais. C'est juste, on monte des steps et en fait, on va apprendre remise à niveau et on va les faire progresser pendant 6 semaines. Donc, des gens qui sont pas atteints, on va pas faire travailler des sportifs, c'est des gens, des volontaires. Donc, c'est dans l'idée aussi de la mobilité du PDE de les faire changer d'usage.
Votre fédération nationale que vous avez réussi à créer, donc loi de 1901, donc là, maintenant, ça touche 60 000 entreprises, donc partout en France. Ça veut dire que vous êtes contagieux.
En fait, ce qui se passe, c'est que tout est parti des échanges des bonnes pratiques. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait un trou dans la raquette. Le gouvernement fait une loi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et impose à toutes les entreprises de faire un plan de mobilité avant le 1er janvier 2018. Je découvre que 80% des entreprises françaises ne savent même pas ce que veut dire plan de déplacement d'entreprise, imaginez. Donc là, j'ai dit, je vais créer une association pour aller voir ça. Et ben, vous savez qui? Les premiers qui ont adhéré à mon association ne sont pas concernés par la loi. Des petites entreprises, des collectivités, des mairies, des trucs. C'est fou. Donc ça part. Là, on vient de faire un accord avec le GART, le groupement des autorités responsables du transport. Ils ont validé une note qu'on a fait pour aider les entreprises. Ils vont la diffuser à leurs 280 métropoles françaises. Donc j'ai Strasbourg, Nantes, après il y a le port autonome de Sille. On travaille sur l'emploi. C'est génial. C'est un sujet porteur. Voilà.
Bruno Renard, maintenant on va s'intéresser aussi à notre assiette, c'est quand même important. Et là aussi, vous avez eu donc des idées, vous vous êtes regroupé, dites-nous ce que vous avez fait et ce que vous faites.
Bon, moi j'ai 3 restaurants à gérer, on fait manger 4000 personnes. Et pareil, mon directeur Jean Terme m'avait dit, ce que tu fais sur la mobilité, on doit être une entreprise exemplaire, fais-le dans la restauration. Donc j'ai participé à un projet unique en France, qui s'appelait Manger Biolocal en entreprise. C'est la première fois qu'on s'intéressait aux collectivités. Donc, on a pris 5 majors de la restauration collective et on a pris 5 entreprises dans la région Rhône-Alpes. On a travaillé avec Corabio et on s'est dit, pendant 3 ans, essayons de faire évoluer le bio et local.
Il y a une chose, c'est que, évidemment, les collectivités, en particulier donc la ville de Grenoble, faisaient aussi pareil. Là, ils sont en train d'atteindre 50% de bio dans le local et voudraient effectivement faire plus. Et ça veut dire que le gisement n'était pas extensible. Alors, qu'est-ce que vous avez fait?
On avait démarré Manger Bio Local avant l'arrivée de Éric Piolle à la ville de Grenoble. Ouais. Quand Éric Piolle est élu à la ville de Grenoble, j'entends à la radio qu'il annonce 100% de bio local. Ouh là là, j'ai dit ça va pas le faire parce que si on n'a pas assez de d'exploitations qui fournissent du bio local. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit si tu dis à toutes tes écoles de manger bio local, j'aurai plus de bio local pour mes établissements. Donc on a fait un deal vachement sympa et donc on a créé un club unique en France, le club interétablissement et collectivité pour une restauration collective, responsable et durable. Et donc, on représente aujourd'hui 250 000 repas jour.
Ne mangez plus. Cela.
Ah non, alors, on n'est pas focalisé sur le bio.
Bon,
notre slogan, c'est du champ à l'assiette. On s'occupe de l'agriculteur, on s'occupe du transformateur, on s'occupe du cuistot. Et donc, ce qu'on dit, c'est que tout est intéressant. Les circuits courts, l'anti-gaspillage et tous ces sujets-là sont traités dans cette association. Et donc, on tend à structurer les filières agricoles. D'accord. Vous savez ce qu'on fait quand on représente 250 000 repas jour?
Vous arrivez à contractualiser aussi avec des agriculteurs.
Alors là, c'est pas notre job. Donc, par contre, on impose un peu notre point de vue aux transformateurs. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est, regardez, nous, on est capable de vous dire, on va vous acheter 40 tonnes de carottes bio ou des trucs locaux. Donc, eux, ils peuvent augmenter leur capacité de production. Alors, là, on joue sur la structuration de la filière agricole. Et surtout, on fait de la pédagogie. La saisonnalité, les gens oublient. Ils oublient qu'à Grenoble, le kiwi, c'est du local, il faut le manger en hiver. Et voilà, sur l'enceinte du CEA, un ancien site nucléaire.
C'est ce que je vais vous dire. Ah oui, c'est là, d'accord.
C'est un ancien site nucléaire. On est en train d'installer des potagers devant les restaurants pour montrer qu'en été, il y a des belles tomates, on les trouve dans le restaurant. En hiver, il y a du kiwi, mais tu ne trouveras pas de tomates. Non. Et des arbres fruitiers, mais qu'on va acheter à Annecy.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette affaire-là? Parce que vous le portez avec évidemment plein d'enthousiasme, ça c'est pas la peine de vous faire un dessin, mais profondément ça vous dit, ça va, je peux agir, voilà, j'agis véritablement localement et les choses sont en train de bouger.
Ah, c'est ça, c'est... je ne m'étais jamais rendu compte de la capacité d'une entreprise par rapport à un politique par exemple. Un politique, bah, typiquement il doit passer par une délibération, donc il doit faire voter son conseil. Et nous les entreprises, quand on décide de faire, quand la loi nous le permet, non, je ne vais pas dire qu'on déroge à la loi. Mais vous voyez...
Non, on peut la faire évoluer. On peut...
Ah, mais le point de départ du siècle, là, ce fameux club interétablissement, ah, j'ai fait sensation quand j'ai fait ça. Hein. J'ai dit, on est soumis au marché européen. Donc l'Europe nous interdit de dire, dans un cahier des charges, je veux les cerises du coin, je veux la truite du Vercors, ainsi de suite. Donc quand j'ai créé le club, je leur ai dit, on va faire un label. Toutes les entreprises qui adhèrent à mon association disent au monde entier, moi, je veux la cerise d'ici. Même si j'ai pas le droit de l'écrire dans mon cahier des charges, sache que je la veux parce que je participe au siècle. Et du coup, si le prestataire de restauration est intéressé de travailler avec nous, il va mettre une offre complémentaire à ce qu'on lui demande et on aura gagné le pari. Et ben la loi, il faudra bien qu'elle évolue pour voir qu'en fait, nous, on n'achètera plus que local.
Eh bien, c'est pas mal tout ça. Bruno Renard, donc coordinateur et responsable sociétal au CEA de Grenoble pour ce plan de déplacement inter-établissement, et puis donc cet aspect aussi alimentaire, Frédéric, tout ceci ne vous a pas échappé.
Non, et puis Bruno Renard, ça fait longtemps que je le connais, c'est un précurseur en France de PDIE, plan de déplacement inter-entreprise, c'est une obligation liée au Grenelle, hein. Il y a 20 000 sites d'entreprises qui sont concernés. Non, non, c'est très bien, et les entreprises qui les font correctement, d'après les bureaux d'études, économisent de 5 à 20% sur leur budget mobilité, sans compter l'effet sur le bien-être au travail des employés. Donc ça n'est que du bénéfice, même si c'est difficile à mettre en place parce que finalement, ça revient à lutter contre la tendance que nous avons tous d'être chacun tout seul dans notre voiture.
Et ben tenez, pour se déplacer, un autre moyen de transport, un petit coup de wagonnet.
C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi j'y ajoutais le prix du papier, la nicotine. Une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire. Une cartouche qui se fume, une lance aux plumes pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes dans mon cœur la sonde, pour qu'il diffuse ses sentiments vagues, marqués par la vague du doigt qui t'accuse. Bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux. Par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous
s'éloigne l'un de l'autre, rêveur du destin qui choisit. Des wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Des wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit. Timbre bitéré, ma langue est restée collée dessus. Dans de l'eau des taches, ce lambeau qui cache un baiser perdu. Le papier qui brûle, geste ridicule, j'ai renversé. Sur l'encre d'étude, bleu des mers du sud, le cendrier. Et pas de suite possible, pour cet impossible. Missive confuse, ces sentiments vagues, marqués par la vague. Du doigt qui t'accuse, vague de fiançailles, posée sur les rails, coupée net en deux. Par les roues des wagonnets, qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets, qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets,
attention, veillez à ce que le train et les wagonnets soient à l'arrêt pour descendre sur le quai. Et descendre de l'émission, alors pas tout à fait maintenant, parce qu'on a encore une petite minute, cher Arnaud Gossemont, avec une information intéressante et positive. Parlez-nous d'une victoire que vient de remporter en fait une ONG aux Pays-Bas. Le juge a reconnu que l'État a un devoir d'action face au changement climatique.
Oui, c'est une première, effectivement. C'est une ONG qui s'appelle Urgenda, qui a fait condamner l'État néerlandais devant la cour d'appel de La Haye. Et le juge a considéré que l'État néerlandais agissait illégalement et en violation du devoir de vigilance. Il n'a pas prononcé cette sanction, mais malgré tout, il a indiqué que d'ici à la fin de l'année 2020, les émissions de CO2 néerlandaises devront être inférieures d'au moins 25% au niveau qu'elles avaient atteint en 90, 25%, et pas 17% comme les politiques souhaitaient le faire. Donc c'est une condamnation certes, entre guillemets, exemplaire, il n'y a pas de sanction, l'État ne va pas aller en prison derrière, mais c'est une décision très importante lorsqu'on sait qu'il y a près de 900 recours du même type dans le monde, en France notamment, l'ONG Notre Affaire à Tous a engagé un recours cette fois-ci contre l'Union européenne. Pareil pour un défaut de vigilance alors que le changement climatique est en train de s'emballer, comme vous le savez. Alors, c'est pas juste tout exemplaire, il y a aussi un résultat, c'est-à-dire que le gouvernement néerlandais était cloué au pilori dans la presse et a annoncé avant même que le juge ne rende sa décision son intention de fermer des centrales à charbon d'ici 2025. Et il a annoncé un certain nombre de mesures pour effectivement réduire de 25% et pas de 17% comme il l'avait annoncé.
Mais alors, très rapidement, ce type d'action judiciaire, c'est vraiment porteur d'espoir ?
Oui, c'est tout à fait porteur d'espoir, c'est assez nouveau, hein. Ça fait quelques années qu'on a ça, pas uniquement en matière de climat, rappelez-vous la condamnation de Monsanto aux grandes organisations par un tribunal à San Francisco à la demande d'un jardinier qui se plaignait des conséquences cancérogènes du glyphosate. C'est vraiment une tendance lourde en matière de droit et là c'est une décision exemplaire.
Eh ben grand merci Arnaud Gossemont, merci cher Frédéric.
Merci Denis.
Voilà,
merci.
On se retrouve bientôt pour de nouveaux décryptages. Semaine prochaine, ça est autre chose, on va parler de bêtes, d'animaux sauvages. Je vous emmènerai compter les vautours avec Christian Coulomi dans les Hautes-Alpes. On va compter les vautours, oui, absolument. Il y aura François Moutou donc aussi avec nous, donc on sera plus dans le domaine animalier. Merci à Florent Beauvallet à la technique, à Camille Blanès, à Henri-Marc Mutel qui réalisait cette émission, Thierry Bupin a choisi les disques, Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Il y aura des messages, hein, vraiment la semaine prochaine, on en a pas mal à vous diffuser. Et puis le podcast, vous en avez l'habitude, rediffusion entre 5h et 6h du matin. Et puis demain, la tue du mon petit loup, ce sera à 19h54 après les petits bateaux.